Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. La presse et Québec Science. Au programme, ouvrir un compte, exiger des comptes des réseaux sociaux. La science des bulles. Le barreau lance une nouvelle clinique juridique gratuite. Et Ottawa réécrira plus de 200 plaques historiques. Bonne écoute.
Ouvrir un compte, exiger des comptes des réseaux sociaux. Un texte de Karim Benessaï, paru le 24 mai 2023 dans La Presse. Elle a fait trembler Facebook en 2021 quand elle a révélé des dizaines de milliers de pages à l'appui à quel point le réseau social a choisi le profit plutôt que la sécurité. Aujourd'hui, la lanceuse d'alerte Frances Haugen se joint à l'Université McGill pour sa croisade contre l'opacité de ces géants multimilliardaires. Son mot d'ordre, résume-t-elle en entrevue, « mieux les comprendre pour reprendre en main notre vie numérique ». Quel sera votre rôle au sein du Centre pour les médias, la technologie et la démocratie à l'Université McGill? Au cours des derniers mois, je me suis principalement concentré sur la responsabilité démocratique et la transparence des réseaux sociaux. Toutes les autres industries aussi puissantes sont responsables, non seulement en vertu de lois individuelles, mais aussi de tout un écosystème de responsabilité. Il s'agit de citoyens informés. Il s'agit d'investisseurs informés qui gèrent pour obtenir des rendements à long terme. Ce sont des législateurs qui tiennent les entreprises pour responsables. Comment construire cet écosystème de responsabilité que nous avons, comme pour l'industrie automobile? Il en va de même pour la responsabilité des réseaux sociaux. Nous pensons que la sécurité en ligne se résume à la protection de son mot de passe. Il y a actuellement un énorme vide de connaissances autour de l'idée que nous devrions poser des questions sur la façon dont ces systèmes sont conçus. Nous devrions nous interroger sur la manière dont ces systèmes sont gouvernés, tant au sein des entreprises qu'à l'extérieur. Le projet que je mène pour l'année prochaine porte donc sur la manière dont nous pourrions avoir une relation différente avec ces entreprises à l'heure actuelle. Nous acceptons tout ce qu'elle nous donne parce que c'est un produit gratuit. Les choses se sont-elles améliorées ou détériorées depuis que vous avez commencé votre travail? Ce qui me fait vraiment peur, c'est qu'il a semblé pendant un certain temps que Facebook écoutait, qu'il réagissait, qu'il investissait davantage dans la sécurité. Après mon dévoilement, ils ont renforcé la protection des enfants. Mark Zuckerberg a annoncé que c'était l'année de l'efficacité et ils ont juste coupé dans les équipes de sécurité. Je crains que Facebook n'ait tiré les leçons de l'affaire Elon Musk, qui a licencié presque tous les professionnels de la sécurité et n'a pas vraiment eu à en subir les conséquences. Mark a regardé cela et a dit « En ce moment, nous dépensons de l'argent pour des choses que nous ne sommes pas obligés de faire. » C'est en partie pour cela que nous avons besoin de lois sur la transparence. Que pensez-vous des lois comme C-27 à Ottawa qui visent notamment à mieux protéger la vie privée des Canadiens? Je ne suis pas très versé dans les politiques publiques. Je suis avant tout une scientifique des données et chef de produits. À l'heure actuelle, nous disposons d'un vocabulaire très limité sur la manière de traiter ces problèmes, avec des notions telles que la protection de la vie privée, la liberté d'expression, la législation antitrust. Nous devons réfléchir à une approche un peu plus large. Je suis enthousiaste à l'idée de sensibiliser les gens à la manière dont ces systèmes sont conçus en amont. Ils ont déjà des biais, vous savez. Certaines idées sont diffusées et d'autres ne le sont pas. nous n'avons pas la possibilité de voir quels sont ces préjugés. Oui, de meilleures lois sur la protection de la vie privée peuvent, d'une certaine manière, aider ces systèmes, car s'ils ne savent rien de vous, ils ne peuvent pas vous personnaliser. Mais nous ne devons pas nous contenter d'en parler. Nous avons des problèmes du 21e siècle et nous avons besoin de nouvelles solutions du 21e siècle. Vous avez entendu parler de l'appel à une pause de 6 mois dans la recherche sur l'intelligence artificielle. Que pensez-vous de cette initiative? C'est volontairement que je n'ai pas signé. Le concept derrière la pause est que ces technologies sont difficiles à développer aujourd'hui. Et si nous n'en faisons pas de plus grandes, nous ne pourrons pas les développer. Mais nous n'avons pas besoin de modèles beaucoup plus grands que ceux dont nous disposons actuellement. Deuxièmement, je pense que le postulat de base est vraiment trompeur. En ce qui concerne l'IA, oui, il existe de sérieux risques existentiels. Ce sont des risques à long terme, mais il y a d'énormes récompenses à court terme. Jouer dans cet espace coûte très peu d'argent. Que pensez-vous qu'il va se passer? Vous allez assister à une balkanisation. Je pense que cela rend le monde moins sûr. Au début, les réseaux sociaux étaient très étonnants, nous permettaient de connecter avec de vieux amis, de la famille, mais ces dernières années, nous en sommes revenus et nous avons vu les menaces. Y a-t-il un juste milieu entre l'enthousiasme et la désillusion? Oh, à 100%. En général, je suis sceptique à l'égard des gens qui disent toujours « Oh, c'était mieux dans le passé ». L'ancien temps n'était pas si génial que ça. Je pense qu'il y a une grande occasion de revenir à quelque chose qui ressemble un peu plus à Facebook de 2008-2009. Là, on se connectait avec des gens que l'on connaissait vraiment, mais on ne passait pas autant de temps sur Facebook. Les réseaux sociaux, qui concernent notre famille et nos amis, sont vraiment satisfaisants, mais il ne crée pas de dépendance. Mais la seule façon d'inciter le marché à aller dans cette direction, c'est que les consommateurs sachent ce qu'ils utilisent. Et le seul moyen d'y parvenir est d'instaurer une transparence imposée par la loi. Vous organisez des assemblées virtuelles pour les jeunes. Que leur dites-vous et quelle est leur réaction? C'est une partie de notre travail. Comment impliquer les jeunes dans la gouvernance numérique? Je pense qu'il va y avoir des occasions vraiment passionnantes autour de la façon d'aller dans les écoles et d'engager les enfants dans le type de vie qu'ils veulent vivre. Montrez-leur comment ces systèmes fonctionnent. Voici comment ces systèmes vous influencent. Vous devez en fait prendre collectivement des décisions de gouvernance. L'année dernière, j'ai surtout travaillé avec des élèves et j'ai organisé mon premier événement. Ils sont sur les réseaux sociaux puisqu'ils ont 8 ans, n'est-ce pas? Travailler avec les jeunes, c'est créer des événements de changement. On ne peut pas se contenter de leur faire la morale. Vous ne pouvez pas leur dire qu'ils prennent de mauvaises décisions. Vous devez leur dire « Hey, tu peux changer le monde. Laisse-moi t'aider. » C'était Ouvrir un compte, exiger des comptes des réseaux sociaux, un texte de Karim Benessaï, paru le 24 mai 2023 dans La Presse. La science des bulles. Un texte de Mélissa Guilmette, paru le 20 novembre 2019 dans le magazine Québec Science. Les bulles n'amusent pas que les enfants. Des scientifiques s'intéressent aux questions fondamentales les concernant. Les gens me demandent souvent, Mais que peux-tu donc étudier au sujet des bulles? Pourtant, elles sont importantes, elles sont partout, s'exclame Peng Bo Chu, qui se passionne pour le sujet depuis plusieurs années et qui vient de publier avec des collègues une revue de la littérature sur la formation de ces globules gazeux. En plus de vous masser le dos dans le spa, les bulles sont notamment utilisées dans l'industrie des pâtes et papiers, dans le traitement de l'eau potable et dans l'extraction minière. C'est ce dernier usage qui occupe le chercheur attaché au CanMet Mining, un laboratoire de ressources naturelles Canada et titulaire d'un doctorat de l'Université McGill. Dans l'industrie, on réduit d'abord le minerai brut en fines particules. Un procédé appelé flottation permet ensuite de séparer le minerai de la roche dans un bassin d'eau. Un agent moussant et un apport d'air fournissent les bulles, tandis que des produits chimiques rendent les particules recherchées hydrophobes. Elles vont vouloir fuir l'eau, explique Peng Go Chu. Et où iront-elles? Sur les bulles, qui migrent vers la surface. Quelques 20 millions de tonnes de cuivre sont ainsi traitées annuellement dans le monde et la majorité des autres minéraux subissent le même traitement. Cette technique existe depuis plus de 100 ans, mais les scientifiques ne savent pas précisément ce qui se passe dans les bassins de flottation sous le couvert des bulles. Comprendre ce qui influence la formation des bulles tout au fond des cuves serait une avancée majeure, car plus les bulles sont petites, plus elles captent de particules collectivement. La revue de la littérature publiée en août dans Advances in Colloid and Interface Science indique justement les pistes de recherche à privilégier. On sait déjà que la taille des bulles résulte de l'interaction entre trois éléments. La masse d'air diffusée par l'appareil, les propriétés du liquide dans le bassin, ainsi que la concentration et la nature des agents actifs à la surface. Le phénomène de coalescence, soit la fusion de deux bulles, est également pris en compte. Mais comment étudier la création des bulles, aussi appelée rupture car il s'agit d'une coupure avec une masse d'air, dans un laboratoire? Grâce à des caméras haute vitesse, mais aussi à l'écoute du bruit causé par la rupture d'une bulle. Ces « oups » contiennent deux informations importantes, mentionne M. Chu. La fréquence acoustique est liée à la taille des bulles. Plus le son est aigu, plus la bulle est petite. Le son nous dit également à quelle vitesse le système dissipe son énergie. Des analyses plus fines de ces données permettent de déterminer la stabilité de la bulle. Peng Bo Chu n'a pas fini de regarder et d'écouter les bulles. Il assure que le sujet a la cote. La microfluidique gagne en popularité. Un jour, on pourra utiliser des bulles pour livrer des médicaments dans le corps. Une équipe a même publié un article fascinant qui s'appuie sur la rupture d'une bulle pour expliquer l'univers. C'était « La science des bulles », un texte de Mélissa Guillemette paru le 20 novembre 2019 dans le magazine Québec Science. Le barreau lance une nouvelle clinique juridique gratuite. Un texte de Lila Dussault, paru le 1er juin 2023 dans La Presse. Jusqu'à 5000 citoyens pourront recevoir gratuitement des conseils juridiques chaque année. Le barreau du Québec fait d'une pierre deux coups en annonçant jeudi l'ouverture d'une nouvelle clinique juridique offerte par ses étudiants. Il souhaite ainsi aider la population et mieux former les futurs avocats. Pendant l'hiver, le barreau du Québec a testé la nouvelle mouture de sa formation des nouveaux avocats, le projet pilote d'une clinique juridique. Pendant 19 semaines, 273 personnes ont reçu des conseils juridiques gratuitement par 55 étudiants accompagnés de 15 superviseurs. Fort du succès de ce projet pilote, le barreau lance officiellement sa clinique juridique jeudi. L'idée est venue lors de la refonte de la formation du barreau, obligatoire pour tous les futurs avocats du Québec. On a combiné ça avec une volonté réelle de mettre en œuvre des solutions pour l'accès à la justice, explique Maître Catherine Ouimet, directrice générale du barreau. L'idée d'une clinique juridique gratuite est gagnante sur tous les fronts, selon elle. Pour les étudiants, elle permet de combiner la théorie avec la pratique, de se confronter, souvent pour la première fois, à des clients réels. Le tout sous une supervision étroite. Avant, dans la formation, on travaillait avec des études de cas, donc les étudiants ne rencontraient pas la personne. Il n'y avait pas l'aspect plus spontané d'une rencontre avocat-client, illustre Maître Ouimet. C'est d'ailleurs ce qui a frappé Jade Normandeau, étudiante du barreau qui a participé à la clinique juridique l'hiver dernier. On sait qu'on doit interagir avec l'humain, mais j'ai réalisé que c'est des problèmes qui viennent chercher les clients vraiment profondément, observe-t-elle. On dirait que je n'avais pas vraiment saisi l'ampleur de combien c'est émotif pour ces personnes-là. Une fois la formation du barreau terminée, les étudiants doivent ensuite effectuer un stage de 6 mois. Jade Normandeau, qui espère exercer en droit criminel, s'y sent mieux préparée en ayant déjà travaillé avec des clients réels. Les superviseurs du barreau observent aussi une différence chez les étudiants qui ont participé à la clinique, affirme Maître Ouimet. Il nous confirme que les étudiants sont beaucoup mieux préparés en entrevue, entre autres, à ce qui se passe dans une relation avocat-client. Favoriser l'accès à la justice. Rénoviction, vol de voiture, garde partagée, pension alimentaire, les étudiants de la clinique juridique ont pu aider leurs clients avec des problèmes juridiques variés. Pour l'instant, ils peuvent offrir des conseils juridiques, mais pas défendre leurs clients devant les tribunaux. Il y a des opinions juridiques, de la rédaction, de la préparation pour des auditions au besoin et tout l'aspect stratégique qui peut être fait par des étudiants et des superviseurs, détaille Maître Ouimet. On est en prévention, donc on aide la justice à mieux performer ou à être plus efficace. La clinique sera offerte en personne ou par visioconférence dans 4 bureaux du Barreau du Québec à Montréal, Québec, Sherbrooke et Gatineau dès l'automne prochain. C'était « Le barreau lance une nouvelle clinique juridique gratuite », un texte de Lila Dussault, paru le 1er juin 2023 dans La Presse.
Ottawa réécrira plus de 200 plaques historiques. Un texte de Mélanie Marquis paru le 20 mai 2023 dans La Presse. De l'arrivée de Jacques Cartier à Gaspé à la bataille de Québec, en passant par la Grande Paix de Montréal, le gouvernement fédéral s'est lancé dans une opération de réécriture de plus de 200 plaques historiques, y compris une trentaine au Québec, afin de corriger des erreurs factuelles ou de revoir des suppositions coloniales, entre autres. Cette désignation fera l'objet d'une revue. La mention figure dans certaines pages web du répertoire des désignations d'importance historique nationale de Parc Canada, où sont recensées les plaques que la Commission des lieux et monuments historiques du Canada a installées sur des sites aux quatre coins du pays. Au cours des trois prochaines années, près de 10 % de ces plaques moulées en bronze ou installées au pays sur un panneau, soit 208 sur 2192, dont 35 se trouvent sur le territoire québécois, seront réexaminées et réécrites sous la houlette de l'organisme fédéral. Pourquoi? Une revue a lieu pour l'une des raisons suivantes. Formulation ou terme désuet, absence d'un aspect important de l'histoire, erreur factuelle, croyances et comportements controversés ou acquisition de nouvelles connaissances, est-il précisé au bas des pages web des événements ou personnages visés. Parmi les plaques boulonnées au Québec qui en font l'objet figure l'arrivée de Jacques Cartier à Gaspé en 1534, la signature de la Grande Paix de Montréal en 1701, la bataille de Québec en 1755, ainsi que le site de l'ancien village iroquoien d'Hochelaga, près de l'Université McGill. On retrouve aussi sur le site de l'établissement montréalais une plaque commémorative dédiée à Sir William Osler. Considéré comme l'un des pères de la médecine moderne, il aurait déclaré que le Canada devrait être un pays de l'homme blanc, selon un article du journal de l'Association médicale canadienne. Sinon, ailleurs au pays se retrouvent dans la ligne de mire des personnages comme le premier ministre du Canada, John A. Macdonald, architecte des pensionnats autochtones, ainsi que nombre de lieux ayant abrité des postes de traite de fourrures ou ayant été le théâtre de batailles. Le colonialisme, la cible principale. L'existence de ce programme a déjà été révélée par des médias comme le National Post, où un ancien vice-président à la conservation et à la commémoration du patrimoine de Parc Canada, Larry Ostola, l'a descendu en flammes et a crié au wokisme dans une lettre ouverte parue en novembre 2022. L'agence La Presse canadienne a toutefois récemment obtenu plus de détails sur ses objectifs. La raison la plus courante de la réécriture, des suppositions coloniales, est-il écrit dans des documents obtenus en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Cela fait référence à une forme d'histoire où le progrès de la civilisation occidentale est compris comme inévitable, y énonce-t-on notamment. Au cabinet du ministre Stephen Guilbeault, qui est responsable de Parc Canada, on rappelle que la démarche amorcée sous sa prédécesseur, Catherine McKenna, s'inscrit dans un appel à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Nous élargissons notre conscience et notre connaissance de l'histoire. Nous nous appuyons sur ce qui existait déjà et nous actualisons nos plaques en fonction de ces nouvelles connaissances, a-t-on exposé dans une déclaration écrite. Par exemple, les postes de traite des fourrures constituent une partie importante de l'histoire du Québec. Pourtant, les hypothèses antérieures sur l'histoire du Canada ont exclu les peuples autochtones, ce qui ne peut plus être accepté, a-t-on enchaîné. Nécessaire, mais délicat. L'historien Harold Bérubé, professeur titulaire à la Faculté des lettres et sciences humaines à l'Université de Sherbrooke, voit une pertinence indéniable au chantier. Il y aurait quelque chose d'un peu absurde à dire que l'histoire et la mémoire doivent être figées. Les deux sont appelés à changer, affirme l'historien Harold Bérubé, professeur titulaire à la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. L'exercice n'est toutefois pas sans péril. Celui d'une relecture qui se ferait selon les besoins de l'État, où on risquerait de tomber dans une sorte de propagande, de lisser le passé, et celui de succomber à un certain discours militant qui peut parfois aller à l'autre extrême, soit noircir le passé à outrance, a-t-il relevé. Le député bloquiste Martin Champoux partage cette lecture. Le projet est louable, voire nécessaire, parce qu'on découvre toujours de nouveaux faits dans l'histoire. Mais il faut faire attention au danger de succomber à la tentation de réécrire l'histoire. Ainsi s'attend-il à ce que Parc Canada s'y prête avec grande rigueur et de manière apolitique. Le Parti conservateur, qui reproche ces jours-ci au gouvernement Trudeau de vouloir effacer l'histoire avec sa nouvelle version du passeport, n'a pas souhaité commenter le processus. Le nouveau Parti démocratique n'a pas donné suite à notre demande. Le cas de Jacques Cartier. Le fédéral ne fournit pas de détails sur ce qui justifie l'examen des plaques historiques. À l'heure actuelle, le texte de la plaque à la mémoire de Jacques Cartier vissée sur une croix à Gaspé fait une certaine économie de mentions colonialistes. Cela en fait un cas de figure intéressant, estime le professeur Harold Bérubé. Dire qu'il a découvert ce qui est devenu la Nouvelle-France fait le premier contact avec les Autochtones, ce n'est pas entièrement faux, mais ce n'est pas toute l'histoire. Il en manque une partie, soit que ça a ouvert la porte à l'occupation du territoire de ces Autochtones-là, à leur marginalisation, a-t-il illustré. C'était « Ottawa réécrira plus de 200 plaques historiques », un texte de Mélanie Marquis paru le 20 mai 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et André Lebeau à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.